Alors, match numéro 7 ce soir entre les Sharks de San Jose et l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui a participé aux séries l'an passé après quelques années difficiles qui ont suivi le départ de Patrick Roy. On s'est repositionné de bons jeunes dans l'alignement, une équipe qui est pas grosse physiquement, beaucoup de joueurs rapides, beaucoup de joueurs talentueux et le phénomène Nathan MacKinnon qui a une plateforme exceptionnelle pour élever sa renommée à un autre niveau ce soir s'il pouvait, par une grande performance, amener son équipe en finale de conférence. Mais parlant de finale de conférence, quand on regarde le bilan des dernières années des Sharks de San Jose, eh bien, ils ont participé à plusieurs reprises à la finale de conférence, l'ont perdu à 3 reprises, ont gagné la finale de conférence en 2015, ont atteint la finale de la Coupe Stanley qu'ils ont perdue, mais ils ont raté les séries une seule fois en 2014-2015, depuis 2003-2004. C'est assez phénoménal quand même quand tu regardes la performance d'une franchise sur une longue période, mais ils sont toujours à la recherche du Saint Graal. Comme les Caps de Washington, on a souvent dressé des parallèles entre ces deux équipes-là. Hein, on chassait le trophée longtemps pour finalement gagner l'an passé. Est-ce l'année des Sharks depuis cette victoire sur fond de controverse en première ronde contre les Golden Knights de Vegas? Plusieurs semblent croire que c'est peut-être l'année de la destinée. François Gagnon suit les séries depuis le début avec beaucoup d'attention. Les séries dans l'Ouest, très souvent sur place. Il est sur place pour le match numéro 7. On l'accueille aux amateurs de sport. Bien le bonsoir, François.
Salut, Mario.
Est-ce que c'est l'année de la destinée pour les requins de la Californie, là? Le sens-tu?
Écoute, moi, je suis pas convaincu. Remarque là, qu'on attend la décision de Peter DeBoer là, dans à peu près une trentaine de minutes à savoir si Joe Pavelski sera ou non en uniforme. J'ai l'impression moi que Pavelski va prendre part à l'échauffement d'avant-match. On prendra la décision finale après coup. Mais j'y vais avec l'Avalanche. Les jeunes gens de l'Avalanche, Nathan MacKinnon qui a été blanchi lors des deux derniers matchs, je vois pas comment les Sharks vont pouvoir... Ils m'excusent si ça a fait du bruit. Je suis dans l'amphithéâtre en ce moment. Je vois pas comment les Sharks vont réussir à le museler dans un troisième match de suite.
Et l'état de santé de Pavelski, là, depuis la fameuse controverse, justement, c'est lui qui est au cœur de cette controverse-là, 5 minutes à Cody Eakin, le visage, le sang qui coulait de la tête de Joe Pavelski. Qu'est-ce qu'on sait sur son état de santé? Est-ce que c'est une commotion cérébrale, ultimement?
Ben, écoute, les Sharks n'ont jamais dévoilé la nature exacte de la blessure. Le mot « commotion cérébrale » n'a jamais été mentionné, du moins officiellement. Écoute, je suis debout là en arrière de la 1, 2, 3, 4e rangée, devant le cercle de mise en jeu où c'est arrivé cette chute-là de Pavelski quand il s'est fracassé la tête sur la patinoire. Écoute, il était immobile, il était inconscient. Il me semble que sans être médecin, on peut prétendre là, qu'il a subi une commotion cérébrale. Cela dit, je l'ai longuement regardé lundi à Denver. Il a effectué l'entraînement matinal de son équipe. Il est resté avec les réservistes pendant une grosse demi-heure après l'entraînement comme tel. Et puis, je ne dirais pas qu'il poussait à fond, là, mais il était quand même là, souriant. Et puis, il s'adonnait là, à tous les exercices qui étaient dirigés sur la patinoire. Donc, à ce niveau-là, je dirais que les circonstances, d'après moi, là, sont favorables pour un retour au jeu. Surtout que c'est un match sans lendemain. Donc, d'avoir le capitaine sur le banc dans le cadre d'un 7e match, alors que c'est ce qui était arrivé, là, la blessure dans le 7e match contre les Golden Knights, là, je me dis que c'est un élément sur lequel les Sharks doivent compter pour gagner ce soir.
C'est sûr que sa présence dans l'alignement là, amènerait son lot d'émotions parce que c'est tout un joueur. Est-ce que c'est devenu le visage un peu de cette équipe-là au fil des ans? Il en est le capitaine, en tout cas, tout le moins?
Ben, moi, je te dirais qu'il y a deux... Il y a deux leaders dans cette équipe-là. C'est Joe Thornton qui est le grand leader, même s'il n'a plus le titre de capitaine. Et l'autre leader, c'est Joe Pavelski. C'est un leader un peu plus silencieux, un peu comme Logan Couture, mais ça tourne autour de ces deux gars-là.
Eric Karlsson, est-ce que son stock est à la hausse à la lumière de ses performances en série jusqu'à maintenant? Penses-tu qu'il pourrait jouer un gros rôle ce soir?
Je crois qu'il doit jouer un gros rôle et on sait qu'il va jouer un gros rôle offensivement. Le problème, c'est quelle nature de jeu il va donner défensivement. Tu sais, tu regardes le match de lundi, il est quand même sur la patinoire pour 3 des 4 buts de l'Avalanche, dont le but gagnant, où il y avait de l'air d'une toupie, là. Il y avait de l'air complètement perdu à l'échec avant de Landeskog à ses dépens. Mais c'est ça, Eric Karlsson. C'est un gars qui... doué offensivement, qui a des mains absolument magiques, qui a une bonne vision du jeu, mais défensivement, tu dois vivre avec les lacunes. Mais ta question était, est-ce que sa valeur est à la hausse? Il y a certainement des équipes qui seront prêtes à lui donner un gros contrat, mais je vois pas comment il pourrait revenir ici à San Jose la saison prochaine.
J'ai envie de t'envoyer la même question maintenant que les Blue Jackets sont éliminés. Là. Quel avenir vois-tu pour Matt Duchene qui dit qu'il va explorer toutes ses options et de l'autre côté de la bouche, dit que ça serait « it would be great to play again in Columbus », ça serait bien de continuer de jouer ici, remercie les fans, mais as-tu l'impression qu'il va se rendre jusqu'à tester l'autonomie complète?
Moi, j'ai l'impression. Parce que quand je regarde un gars comme Matt Duchene, pour moi, c'est pas un centre numéro un. Matt Duchene, pour qu'il soit efficace, doit être le deuxième au sein de son organisation. Et quand il dit qu'il va regarder, il va attendre, il va être patient, c'est pas juste au niveau monétaire, c'est pas au niveau salarial, c'est au niveau quelle formation va me donner les meilleures chances de gagner. Disons que Panarin s'en va, puis on a tous l'impression qu'il va partir de Columbus. Et là, si Duchene, à ce moment-là, se retrouve dans une situation où c'est lui qui doit faire gagner le club, c'est pas une situation gagnante pour lui. Tu sais, tu regardes là à Ottawa, il était derrière Mark Stone. C'était pas lui qui avait à faire gagner le club. Alors, il faudra qu'il regarde autour de la Ligue nationale pour voir quel sera le scénario le plus intéressant au-delà de l'argent pour lui permettre de gagner. Mais je sais pas s'il va rester à Columbus.
C'est bien intriguant. Bien intriguant de savoir combien d'argent par année il peut aller chercher. Lui qui gagnait jusqu'à la fin de son contrat actuel, là, 6 millions de dollars par année, a prouvé de bonnes choses. En même temps, il reste toujours une intrigue autour de peut-être l'attitude qu'il peut afficher au sein d'une équipe parce que c'est un vrai leader. Mais si on laisse les trucs hors glace de côté, François, et que quand tu examines la ligne de centre présente et future du Canadien de Montréal, quand bien même Duchene serait attentif à une proposition intéressante du Canadien de Montréal, crois-tu qu'il fit, crois-tu qu'il cadre dans le casse-tête de Marc Bergevin, lui qui, exemple, sur un contrat de 7 ans, jouerait ici jusqu'à l'âge de 35 ans, si ça se produisait, là?
Ben, écoute, moi, ça serait pas mon premier choix. Tu sais, on parle de Columbus, là. Il y a deux joueurs qui vont être disponibles. Disons que Duchene est disponible. Il y a Panarin aussi qui est disponible. Et personnellement, tant qu'à miser gros sur un joueur autonome, moi, je serais davantage intéressé, comme homme de hockey, là, si je suis à la place de Marc Bergevin, je serais davantage intéressé à dépenser beaucoup d'argent sur un gars comme Panarin, quitte à en dépenser énormément, c'est-à-dire de faire une offre mirabolante pour être sûr que ce soit avec moi qui vienne jouer. Mais je donnerais pas, mettons, le 8 millions ou le 8,5 millions que Duchene va peut-être tenter d'obtenir. Duchene, pour moi, c'est pas le gars qui manque aux Canadiens. On l'a vu en fin de saison, puis on peut avoir toutes les lacunes, puis disséquer les lacunes du Canadien. Personnellement, ce qui manque à mes yeux, c'est le gars qui va donner le gros but. Et je crois pas, moi, que Matt Duchene est ce gars-là qui va justifier son salaire dans des matchs comme ceux que le Canadien a disputé en fin de saison, à Columbus, puis en Caroline, alors que le gros but n'est jamais venu. Et moi, je pense pas que Duchene, c'est ce gars-là. C'est la raison pour laquelle, moi, j'y donnerais pas le gros lot. Surtout, que tu l'as mentionné, puis avec raison, c'est qu'il va quand même prendre de l'âge là, au fil d'un contrat de 7 ans.
Ouais, je suis pas mal en accord avec l'ensemble de ton propos sur Matt Duchene et les perspectives d'avenir à Montréal. Je suis pas sûr que c'est lui le gars qui cadre. Mais il y a une affaire que j'accroche sur ce que tu dis, sur quand tu dis la notion du gros but, le gars qui compte le gros but, François, penses-tu que c'est une notion qui est un peu surfaite? Parce que regarde, hier, c'est Pat Maroon qui le compte, le gros but. Et plus souvent qu'autrement, c'est pas le gars qu'on attend. Max Talbot a déjà compté un gros but en finale pour les Red Wings, contre les Red Wings de Détroit avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, penses-tu que cette notion-là est vraie? Je comprends ce que tu veux dire, là, un bon gars offensif qui va compter éventuellement sans savoir exactement quand, mais la notion du gros but, là, ça vient pas toujours du gars qu'on pense qui va le marquer, n'est-ce pas?
Non, ça c'est certain que t'es pas assuré d'une situation comme celle-là. Puis, prenons l'exemple des Sharks, là, quand ils ont gagné le 7e match contre Vegas. C'est un gars qui était confiné au banc qui a fini par le marquer. Mais il reste que le hockey, c'est pas une science parfaite, puis il n'y a pas de science parfaite dans le sport nulle part. Alors moi, je me dis, tu mets les chances de ton côté ou les meilleures chances de ton côté, et c'est la raison pour laquelle, puis on l'a vu avec le Canadien, à quel point ce gros but-là a manqué. Est-ce que Max Pacioretty l'aurait donné, ce gros but-là? On le saura jamais, tu sais, puis il est parti, puis il les a pas...
Il l'a pas donné à Vegas,
pas donné
en tout cas.
Ses gros buts à Vegas non plus, exactement, tu sais. Est-ce qu'un gars comme Brendan Gallagher peut en donner des gros buts? C'est sûr. Mais à la fin de la saison, on a vu cette lacune-là du Canadien. Et si ce club-là veut accéder aux séries la saison prochaine et les saisons à venir, il va falloir qu'il puisse compter sur ce gars-là qui se lève dans ces circonstances-là.
Plus d'outils en attaque. Oui, ben je souscris à ça, oui. De façon globale, plus d'outils en attaque. C'est sûr que personne ne va cracher là-dessus. François, il y a beaucoup été question à Montréal, mais ailleurs également. À Toronto, on discute beaucoup de la possibilité d'offres hostiles. Et Carl Dubas est sorti publiquement. Tu as sûrement eu l'occasion de prendre connaissance de ses propos. Sinon, ben, de toute façon, je les révèle là, pour notre auditoire. Et j'imagine qu'il positionne son organisation au cas où ça surviendrait. Mais lui, il dit que les Leafs sont prêts à faire face à n'importe quel type d'offre hostile, qu'ils ont l'argent pour se débrouiller par rapport à ça. Et il dit, en passant, il dit, on dirait qu'il y a juste Toronto qui pourrait être victime d'une offre hostile, mais je vois plein d'équipes à travers la Ligue qui ont des joueurs qui seraient susceptibles, dans la même situation que nous avec Mitch Marner, de vivre pareille situation. Alors, pourquoi parlez-vous seulement de Toronto? Mais crois-tu qu'il sentait l'importance d'envoyer un message à la Ligue en s'exprimant publiquement là-dessus?
Non, je pense que c'est surtout un message aux journalistes, un message aux partisans. Mais quand il dit qu'il va être prêt à faire face à toute éventualité, je suis bien d'accord. Il va certainement prendre les moyens financiers pour égaler n'importe quelle heure pour garder Mitch Marner avec lui. Mais ça veut dire qu'après coup, il va être obligé de se débarrasser de certains joueurs. Et c'est ça qui rend le scénario des offres hostiles si intéressant cette année. C'est qu'il n'y en a pas juste un. Il n'y en a pas juste deux. Il y en a plein des joueurs qui seront intéressants. Puis il a raison quand il dit qu'il y a d'autres clubs qui sont mal pris, là. Je vais te dire une chose, là. Kevin Cheveldayoff à Winnipeg, là, il a le nez à côté dans le plafond tellement que le nez est en train d'y élargir. Alors, si quelqu'un arrive puis fait une offre hostile qui est importante à un gars comme Cal Connor, mettons, puis moi, je dis ce nom-là parce que c'est le type de joueur qui m'intéresse, moi, dans le cadre d'une offre hostile. Parce que c'est un gars qui va coûter tellement cher que tu vas perdre des choix de première ronde pour les trois prochaines années. Là. C'est un gars qui va être disponible et que les Jets sont pas en mesure de composer avec tous les scénarios. Tu sais, Braden Point, je suis convaincu que Julien Brisebois le perdra pas s'il reçoit des offres hostiles parce que Brisebois va égaler les offres et il va le garder de cette manière-là. Mais après coup, il va être obligé de se débarrasser de certains joueurs. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des directeurs généraux, qu'il y a des organisations, je pense ici aux Flyers de Philadelphie, qui ont de l'argent, qui vont être prêts à dépenser des sous pour donner un coup de barre cette année et profiter de cette situation-là pour s'améliorer rapidement au lieu d'attendre le repêchage et le développement des jeunes joueurs.
François, merci beaucoup de ton intervention à l'émission ce soir. Je te souhaite un match dont on va parler encore longtemps, au moins pour plusieurs jours, un match qui va provoquer un buzz dans le monde du hockey. Alors, profites-en bien, mon cher.
Je vais en profiter, puis comme ça commence à 6h, heure d'ici, ça peut aller en deuxième ou en troisième prolongation, puis on sera pas trop...
Il n'y a pas de problème, ça sera pas trop dommageable pour notre journée, pour notre lendemain. Merci beaucoup, François.
Salut.
Bye-bye, excellente soirée. Ray Lalonde est arrivé, il est dans la régie, il va passer en studio, bien sûr, pour nous présenter la chronique Sport Business. Plusieurs sujets au menu ce soir, dont le hockey féminin, notamment au menu.